beaucoup de familles sont en danger. Si les familles sont en danger, vous comprenez bien que l'Église est en danger. Parce que Jésus a dit, Christ est le chef de cette maison, et la maison est en petit, ce que l'Église est en grand. Dans Ésaïe, au chapitre 48, il y a une parole qui résume bien le séminaire que je vais faire sur le couple, sur les conflits dans les couples, sur comment être responsable dans un couple. Dans Ésaïe, voyez, 48, c'est une parole que je voudrais que nous... Vous savez, je vous encourage à noter les versets. Nous sommes le cœur brisé lorsque nous voyons tous les couples de chrétiens qui ne vont pas bien. Vraiment. Alors que quand on se marie en Christ, je crois que nos couples devraient être bénis vraiment. Vous croyez que toutes les familles de la terre peuvent être bénies dans le Seigneur ? Ésaïe 48, verset 17. Moi, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Regardez bien cette parole. Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Après, il y a une promesse. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Mais pour introduire cette seconde exhortation sur le couple, je voudrais que vous vous souveniez bien de ce « je t'instruis ». Nous avons besoin d'instruction. Ne vous imaginez pas que vous pouvez le faire tout seul. Nous avons besoin de l'instruction de la parole de Dieu. Nous allons voir le premier couple, Adam et Ève. Donc, s'il vous plaît, Genèse chapitre 3, il faut lire ce qui s'est passé pour voir que l'homme a du mal à être responsable, même quand il est parfait, puisque c'était le cas. Genèse chapitre 3, l'ennemi, bien sûr, met toujours son grain de sel pour détruire les foyers. Genèse chapitre 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'y mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Bon, ça, elle le tenait de son mari. Par contre, elle a ajouté un truc, « Vous n'y toucherez point. » Ça, Dieu ne l'avait pas dit. Vous voyez, comme quoi, quand on retransmet la parole, il vaut mieux faire attention. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit dont elle a touché. Et en fin de compte, rien ne s'est passé. Parce qu'elle, vous avez compris ? Et en mangea, et en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Vous comprenez bien que Dieu le savait. Mais quand Dieu pose des questions, je l'ai souvent dit, c'est pour rétablir la communion avec l'homme. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Verset 20, « Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. » Ces deux versets nous parlent qu'il y a toujours une solution, même quand le mal est grave, que Dieu a été obligé de faire un sacrifice pour couvrir ce jeune couple qui n'a pas su faire face à la tentation. Le premier couple de la Bible nous parle de la confrontation avec la tentation. Ça vaut la peine, on le fera. Parce que vous savez, moi, pour moi, le couple, c'est tellement évident quand on est chrétien normalement. sans vouloir me jeter des fleurs, mais sérieusement, au bout de quelques années, quand on prie ensemble, quand on partage, on devrait sérieusement vivre dans une paix réelle dans la maison. La maison, c'est une bénédiction, la maison. Et c'est vrai que je me sens poussé à partager, pour les jeunes en particulier, pour les ados. Hier soir, il y avait du monde, mais combien je voudrais supplier les parents de participer à ces réunions où avec les jeunes, nous exhortons, nous instruisons les jeunes à savoir fonder un foyer, construire un foyer. Je t'instruis pour ton bien. Toutes les instructions de Dieu sont intelligentes. Les gens qui sont à moitié convertis voient les commandes de Dieu comme des restrictions, voient comme des choses pénibles. Tous les commandements de Dieu sont bons. Et mes frères, mes sœurs, nous qui avons un jour décidé d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur, nous devrions accepter les instructions et nous poser la question, mais comment nous aimons? Parce que c'est facile de dire, oh mon mari, moi je l'aime beaucoup mon mari. Ah oui, et comment ça se fait qu'il n'y a aucune communion avec lui? Et vous allez voir que ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité spirituelle l'amour. Parce que c'est trop facile de dire, oui, mes parents c'était des ivrognes, mes parents c'était des gens pas équilibrés, et j'ai hérité de... Je pense qu'Adam et Ève avaient des parents, en fait. Est-ce qu'ils n'étaient pas parfaits, Adam et Ève? Mais face à la tentation, ils n'ont pas su le gérer. Et qu'est-ce qu'ils font? La première chose, vous l'avez vu avec moi, vous l'avez lu, ils se cachent. Vous savez, c'est important de méditer la Bible. Dieu dit, je t'instruis pour ton bien. Et je m'adresse d'abord aux parents, avant de m'adresser aux jeunes qui veulent fonder un foyer. Croyez-moi, la volonté de Dieu, c'est que les foyers soient bénis. L'autre jour, j'ai discuté avec une chrétienne ici, une chrétienne qui marche bien avec Dieu. Elle m'a dit, Monsieur Gau, presque tous les couples chrétiens que je connais, depuis 40 ans, ils ont divorcé. Et parmi eux, il y avait des pasteurs et des serviteurs et des anciens et des diacres, etc. Vous avouerez que ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que le couple soit béni. Vous avez vu, on va le lire, le dernier verset de l'Ancien Testament. On peut le lire. Pourquoi Dieu a voulu que l'Ancien Testament termine par ce verset? Pourquoi? Le verset 6 du Malachie chapitre 4. Regardez bien. Il y a la volonté de Dieu qui est exprimée. Et si cette volonté de Dieu ne s'exprime pas, regardez ce qui arrive. Il faut lire, mes frères et sœurs. Vous savez, il faut être sérieux. Beaucoup de chrétiens ne sont pas sérieux. Ils sont légers. Je sais que ça ne vous plaît pas. Mais hier... j'ai exprimé certaines choses et ceux qui ont entendu savent s'ils étaient légers ou pas. Dans Malachie au chapitre 4, verset 6, regardez le dernier verset. C'est Dieu qui a fait les choses d'une manière intelligente. Regardez bien, la volonté de Dieu. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Vous voyez, il y a réciprocité, il y a des efforts de chaque côté, il y a la bénédiction de chaque côté. Et regardez, virgule, si cette bénédiction ne vient pas, qu'est-ce qui est écrit? De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Lorsque les familles ne sont pas bénies comme elles pourraient l'être, comme elles devraient l'être, eh bien le pays y charge, moi je vous le dis. C'est exactement ce pays, dans tous les pays du monde, dans ce bazar nous sommes. Mais l'Église de Jésus-Christ devrait écouter, je t'instruis. Et laissez-moi vous dire, je le sais, écoutez, ça fait, y a pas, je ne suis pas un vieux pasteur, non? Les vieux, vous allez me dire que je suis jeune, les jeunes, vous allez me dire que je suis vieux, bon, enfin, je suis entre les deux. Si vous saviez, je disais hier, un couple qui était ici, qui n'est plus là, 20 ans de mariage, ils sont venus me trouver, monsieur Gros, on en a marre, il faut qu'on discute. J'ai dit, mais vous discutez entre vous? Non. Elle commence à dire, oui, mon mari, il ne comprend rien. En principe, c'est toujours comme ça. Mon mari ne comprend rien. J'ai aucune affection de mon mari. Mais comment ça? Oui, j'ai aucun câlin. Mais vous ne lui avez pas dit? Est-ce que dans la Bible, il est dit qu'il faut faire connaître à son mari ses besoins? Ben oui. Le Cantique des Cantiques, j'en ai parlé hier soir. Quand la Sulamite dit qu'il me baise des baisers de sa bouche, c'est plein de tendresse. Une femme doit dire à son mari qu'elle a besoin d'affection.
et vice-versa.
Il dit, pourquoi vous ne l'avez pas dit à votre mari? J'attends qu'il devine. Non, mais moi, ça m'a pas fait rire. Hein. Parce que quand on a 20 ans de conversion et qu'on en arrive là, moi, je trouve que c'est triste. Et voyez, le premier problème du premier couple, il se cache. Il se cache. Ils ont pas écouté Dieu, ils ont écouté Satan. Ils ont préféré la parole de Satan à la parole de Dieu. Et je peux vous dire, quand j'écoute certains chrétiens, et ce n'est pas du tout du jugement, je n'ai pas envie, moi je veux vivre dans la miséricorde. La miséricorde, c'est qu'on ne traite pas les gens selon leurs péchés. La miséricorde, ce n'est pas la grâce. La miséricorde, c'est beaucoup plus profond, c'est-à-dire qu'on ne juge pas les gens, on les aide. Mais quand même, comment on pourra aider les gens s'ils ne sont pas instruits? Ils ne veulent pas lire la parole de Dieu, ou alors ils la lisent pour la lire. Qu'est-ce que fait le premier couple? Il se cache derrière des feuilles de vigne, de figues, pardon. Il se cache de la face de Dieu. On commence à se cacher les choses. Mes frères et sœurs, quand on est chrétien, il me semble qu'on devrait vivre dans la vérité. On doit aimer la vérité. Ce n'est pas toujours évident. Il faut savoir quand il faut dire les choses. Moi, des fois, je sais que ma femme, elle a des choses difficiles à me dire. Elle rentre dans mon bureau, elle me dit, est-ce que je peux te parler? Alors, j'ai pas besoin de répondre. Elle sait à mon regard si j'ai dit oui ou non. Alors, elle dit, je reviens, je viendrai quand tu seras prêt. Elle revient le lendemain ou une heure après, je peux te parler? Ouais. Mais c'est important de se parler. C'est vrai que des fois, mais ça ne vaut pas la peine d'entendre ce qu'on a à entendre. Si ce n'est pas votre conjoint qui peut vous le dire, mais qui c'est qui vous le dira? Non, moi, je ne supporte pas que ma femme me donne des conseils. Ah ben, mes frères et sœurs, il est peut-être temps de se remettre devant Dieu. Seigneur, tu m'as donné une aide, tu me l'as donnée. C'est mon épouse, c'est mon mari. Et nous allons nous apprendre à nous aimer comme tu veux que nous nous aimions. Parce que le Seigneur, il nous montre comment on doit aimer et sur quelle base on doit aimer son conjoint. Mais quand on commence à s'unir pour se dérober à la présence de Dieu, quand on commence à ne plus vouloir prier, moi je ne prie plus avec mon mari, il me saoule. Quand on entend des chrétiens parler comme ça, je vous assure, on sait très bien comment ça va finir. C'est une grâce de pouvoir prier avec son conjoint. Je ne sais pas moi. Et j'espère que vous le faites. Et j'espère que vous n'allez pas me dire à la sortie, Monsieur Gaud n'a pas besoin de leçons. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Dieu vous a donné un conjoint. C'est une aide. Et vous devez, les jeunes, vous appliquer à vérifier si la personne que vous allez choisir, elle est spirituelle. Parce que lorsqu'on commence à se cacher derrière, bien sûr, là, il y avait une autre dispensation qui était la dispensation de l'innocence. Je ne vais pas parler de ça, ils n'avaient pas besoin d'être habillés. Mais quand on commence à se cacher, quand on commence à s'unir pour se dérober à la présence de Dieu, quand on commence à s'accuser, c'est la femme. Elle ne s'appelait pas Ève encore. C'est la femme. Et la femme, c'est le serpent. Et c'est vrai que le diable, excusez-moi, je ne me ferai pas l'avocat du diable, vous le comprenez bien. Mais c'est facile de diaboliser. C'est facile de mettre toujours le diable. Vous savez, David, quand il a péché, il aurait pu dire à Nathan, écoute Nathan, cette femme, elle était, je la voyais de ma terrasse, elle se baignait toute nue dans la piscine, c'est le diable. Non, non, il a dit, j'ai péché contre toi seul. Cette honnêteté, mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde un peu dans l'église, des fois on ne veut pas choquer, on ne veut pas blesser, on veut pas. C'est difficile d'être un pasteur équilibré, je vous assure, c'est difficile. De ne pas être légaliste, de ne pas être laxiste. Franchement, ça m'est difficile. Et je vais être droit devant Dieu. Je t'instruis pour ton bien. On n'est pas là pour accuser sa femme et la femme n'est pas là pour accuser son mari. On doit se mettre à genoux et trouver des solutions. Nous avons un enseignement. C'est pas de la légende et de la philosophie. Il y a même des chrétiens qui pensent que l'histoire d'Adam et Ève, c'est de la philo. Non, c'est pas des légendes. Tout ça, c'est la vérité. Qui avait tort, au fait? Ils avaient tort tous les deux. Ils étaient responsables tous les deux. Et c'est vrai que c'est facile de chercher un responsable. Oui, c'est sa faute, on divorce, mais c'est sa faute. Ou c'est la sienne. Vous savez, quand vous écoutez l'un, c'est sûr que c'est l'autre qui a tort. Quand vous écoutez l'autre, c'est sûr que c'est le premier qui a tort, etc. Mais là, on n'est pas là. Je ne veux pas parler de ça. On parlera ça dans les conflits. on y reviendra, et je serai obligé de le faire le dimanche. Pourquoi ? Parce qu'en semaine, c'est vrai que certains ne pouvez pas venir, donc je m'appliquerai, si Dieu me prête vie, à faire ces exhortations le dimanche matin. J'en ai besoin parce que je veux être responsable devant Dieu. Non, ce n'est pas toujours la faute du diable. Le diable, il était là parce qu'on l'avait laissé rentrer. Vous avez vu ce que Dieu avait dit à Adam ? Regardez, c'est important de le voir. Regardez, il faut lire comme il faut. Genèse 2, verset 15. Quelle était la responsabilité de ce frère ? Quelle était la responsabilité ? Genèse 2, verset 15. Qu'est-ce que Dieu avait demandé à Adam ? L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden. Pourquoi faire ? Pour le cultiver et pour le garder. Donc la responsabilité de l'homme, c'était de cultiver, de travailler pour nourrir son épouse et ses enfants, et de le garder. Et le jardin, ça se protège. Est-ce que le serpent avait sa place dans le jardin ? Le serpent est un animal des champs. Qui aurait une poule, d'accord. Mais le serpent n'avait rien à faire dans le jardin. Ça prouve qu'il n'a pas exercé sa responsabilité de garder le jardin. Quand la Bible dit ne donnez pas accès au diable, quand même, je ne veux pas donner des leçons. Mais on devrait savoir ce qui donne accès au diable. Quand il est dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et il ajoute, ne donnez pas accès au diable. C'est simple, on sait très bien que la colère, on voit bien que Dieu a une certaine condescendance par rapport à cette émotion. Ça peut arriver, si vous vous mettez en colère, ça veut dire que ça peut arriver. C'est une chose de se mettre en colère, de s'irriter, et c'est une autre de s'irriter gravement. Ne péchez pas. Ne donnez pas accès au diable. C'est pareil. On ne garde pas le jardin. Et on laisse rentrer certaines choses. On devrait connaître la Bible. Paul le dit, mais ne laissez pas à Satan à l'avantage. Vous n'ignorez pas les desseins de Satan. Écoutez, quand même, il n'y a pas besoin de savoir que certaines choses donnent accès au diable. Si je mens à ma femme, qu'est-ce que je fais ? Je donne accès au diable. C'est qui le père du mensonge ? Ouais, mais je ne veux pas avoir d'histoire. Et bien, il vaut mieux avoir des histoires, 5 minutes, que d'aller en enfer et de détruire un foyer et de donner un témoignage minable à ses enfants. Parce que mes frères et sœurs, moi je vous le dis devant Dieu, nous voulons être prêts quand Jésus va revenir. Mais je le dis, je l'ai dit tout à l'heure, l'église, c'est quoi l'église ? C'est les familles. Les familles, ce sont des maisons. Les maisons, ce sont de petites églises. Comment elle est ma maison ? Comment elle est ma maison ? Comment je vis dans ma maison ? Quelle sorte d'amour je vais essayer ? Je n'ai pas le temps, mais je le ferai si Dieu me prête vie. Je le ferai. De pouvoir vous dire vraiment qu'il faut savoir être responsable. Comment je dois aimer ma femme ? C'est plein d'instructions dans la Bible. Comment je dois aimer mon mari ? C'est plein d'instructions dans la Bible. Comment je dois m'occuper de mes enfants ? Vous avez vu Caïn, il n'a pas été responsable. Quand Dieu lui a dit, mais le péché se couche à ta porte, Dieu prend le soin d'aller vers lui. Ah, Caïn, c'est pas bien ce que tu as fait. Le sacrifice que tu as fait, c'est pas celui qu'il fallait faire. Le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Et qu'est-ce qu'il a fait ? La jalousie, c'est un truc de fou, la jalousie. Ça détruit des couples. Être jaloux de sa femme, parce que les enfants préfèrent maman. Ça vous est jamais arrivé, ça ? Moi, des fois, j'ai redemandé aux enfants quand ils étaient petits. Qui c'est que vous préférez ? Des fois, j'avais une petite pièce à la main pour essayer de... Qui c'est que vous... Non, là, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Qui c'est que vous préférez ? Mais maman, papa, on te le dit, on préfère maman. Tous me disaient pareil. Mais moi, j'étais content. Mais je comprenais pourquoi, parce que moi, j'étais jamais là. Ouais, quel bon père j'étais. Ça fait pitié, vous voyez ? On me disait, t'es un bon pasteur. Et à la maison, avec beaucoup d'affection, on me disait, papa, t'es pas le meilleur papa. T'es jamais là. Bon, ça s'est corrigé, mais il m'a fallu du temps. Je l'ai accepté. Ils sont responsables tous les deux, parce que ni l'un ni l'autre n'ont assumé leur responsabilité. L'image du jardin. Un jardin, dans la Bible, on le voit dans le Cantique des Cantiques, le jardin, c'est l'image de l'amour. Un jardin. Et il y a des choses qu'il ne faut pas laisser rentrer dans le jardin. Le serpent de la solitude. Qu'est-ce qu'on peut laisser rentrer dans un foyer ? Tiens donc, ça vaudrait la peine d'en parler pour commencer à ce sujet sur le couple. Qu'est-ce qu'on peut laisser rentrer dans un foyer qui va le détruire ? L'égoïsme. Si vous êtes égoïste, je l'ai dit hier, ne vous mariez pas. Ou alors réglez cette affaire. Si vous ne savez pas vous donner, si vous ne savez pas servir Dieu, parce que, et les autres. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, je n'ai pas pu vous aider, M. Gault. Il y avait des travaux à l'église, je ne suis pas venu, mais j'étais avec vous en esprit. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui a répondu, mais quand vous déménagerez, on viendra vous aider en esprit. Bah, il y a des gens qui sont super fins. Moi, je ne l'aurais pas dit. Même si je ne l'avais pas dit. Mais mes frères et sœurs, nous devons être pratiques. Le Seigneur n'attend pas de la théorie. Le Seigneur n'attend pas que vous soyez d'accord avec ça, même si je le dis avec passion ou émotion. Le Seigneur, il attend que nous nous engagions en disant « Oui, je ne laisserai pas rentrer ça dans le foyer. » Franchement, on est avec une épouse, on est avec un conjoint, on couche ensemble. On n'est pas capable de se dire les choses qui pourraient détruire le foyer. Qu'est-ce que c'est qui est rentré dans notre maison, qui a abîmé notre foyer ? C'est quoi qui a abîmé notre foyer ? C'est pas l'égoïsme ? Est-ce que vous vous donnez pour votre femme ? Est-ce que vous vous donnez pour votre femme ? Est-ce que vous vous donnez pour votre mari ? Sérieusement, c'est des questions, il faut en parler. Est-ce parce que c'est bien de lever les mains à l'église ? Bon, ici on est discret, ici on est très discret. Mais mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il y a dans mon jardin ? Comment il est, mon jardin ? Mon cœur, comment il est ? L'amertume, est-ce que je n'ai pas laissé rentrer le serpent de l'amertume dans mon foyer ? Quelqu'un me disait cette semaine, c'est un chrétien qui me parlait d'une autre personne, il fait des heures supplémentaires pour ne pas rentrer à la maison, tellement il n'aime pas rentrer à la maison. C'est triste, hein ? La maison, ça devrait être toujours une bénédiction de rentrer à la maison. Parce que ça, dans le monde, c'est normal, ça bagarre, c'est compliqué, il y a des païens. Mais l'église et la maison, ça devrait être deux endroits où on est heureux de se retrouver. C'est pas vrai ? Qu'est-ce que j'ai laissé rentrer ? Mes frères et sœurs, il faut absolument que devant Dieu, nous nous occupions de nos enfants et de nos conjoints. On est tous les deux responsables. Jésus n'a pas dit « l'homme est supérieur à la femme ». Ce n'est pas vrai ça. Nous sommes égaux, mais nous sommes tellement différents, qu'il faut absolument développer une instruction spirituelle. Je t'instruirai. Frères et sœurs, il ne faut pas lire la Bible en boucle comme ça. C'est bien pour la connaissance générale. Il faut la méditer. Tiens, on va parler de Priscille et Aquila. Tiens, donc, comment ils se sont comportés, ce couple ? Ah, eux, ils se sont unis pour faire du bien. Comment se sont comportés Jézabel et Akab ? Ah, ils se sont unis aussi. Ils se sont unis. Ananias et Saphira, ils se sont unis. Voyez, la façon dont un couple peut se comporter. Et il faut y réfléchir à ça. Une femme, elle doit aider son mari. Je lui ferai une aide. Et les maris, attention. Attention. Parce qu'il y a des femmes aussi qui n'aident pas leur mari, parce que leur mari leur a dit « Écoute, tu me laisses tranquille, je n'ai pas besoin de tes conseils. Ça suffit, je n'ai pas besoin de voir encore ma belle-mère à la maison. » Quand on entend des chrétiens parler comme ça, moi je crois qu'on a besoin des frères et des sœurs, on a besoin des pasteurs, on a besoin des anciens, on a besoin les uns des autres. Alléluia. On doit s'écouter, on doit comprendre que même si la personne n'a pas tout à fait la même pensée que nous, ça devrait nous faire réfléchir. Il faut que nous nous aidions, mes frères et sœurs. L'Église, c'est bien. Le dimanche matin, comme disait Jérôme dans sa prière, quel bonheur de retrouver des frères, des sœurs. Quel bonheur de revoir Madame Delabre au milieu de nous, qui n'a pas pu venir pendant des années. Quel bonheur de vous voir, ma sœur. Quelle grâce de se retrouver. Mais il faut absolument que notre foi, elle soit pratique. Oui, j'ai laissé l'aigreur rentrer, je me suis aigri parce qu'elle ne m'a pas compris. Oui, eh bien, je vais le régler. Tiens donc, on va prendre la Sainte-Seine dans 5 minutes. Est-ce qu'on ne peut pas dire, tiens, je te demande pardon. Oui, j'ai eu de l'amertume parce qu'il s'est passé ça, on n'a pas été d'accord sur l'éducation des enfants. La femme, elle aurait dû dire à son mari, mais qu'est-ce qu'il fait le serpent ? Mais qu'est-ce qu'il fait là le serpent ? Tu gardes, voyez, tu aurais dû le chasser. Qu'est-ce qu'il fait dans le jardin à se promener ? Bon, c'était le plus beau des animaux. Eh ouais, mais ne riez pas. Parce que le problème, c'est que l'ennemi, bien sûr, il ne va pas se pointer avec des choses graves. Il présente toutes les tentations comme des choses agréables. On devrait voir tous les péchés comme des bombes à retardement dans une maison. Tous les péchés. Bien sûr, parce qu'il y a des gens qui pêchent, mais il n'y a rien qui se passe. Ah, mais il ne s'est rien passé. J'ai menti à ma femme, mais tout va bien. Ça ne change rien. Oui, vous allez voir s'il ne va pas changer quelque chose. Le péché, c'est une bombe à retardement, une grenade. Je ne sais pas la densité, mais quand ça va péter, ça va péter. Le péché, on ne rigole pas avec le péché. Le péché, on le règle. Tous, du plus petit au plus grand, parce qu'il y a des petits péchés, des grands péchés, c'est biblique ce que je vous dis. Commettrai-je un si grand péché, dira plusieurs pasteurs. La responsabilité de veiller sur l'autre. Il faut prier, oui, il faut prier, mais il faut discuter, il faut parler, il faut débattre, il faut tomber d'un commun accord. Regardez ce texte, on le verra lorsqu'on abordera les relations physiques, parce qu'il faut l'aborder avec ce que Dieu dit. Des fois, on me dit, monsieur Gros, faites gaffe de ne pas déborder. Je ne déborderai pas. Je ne déborderai pas. Je vous dirai ce qui est écrit dans la Bible. Mais il y en a des choses écrites. Regardez dans 1 Corinthiens. Les Corinthiens avaient posé des questions. Ils devaient envoyer un mail à Paul sur les relations physiques. Et oui, c'est un problème, ça, les relations physiques. Le couple, il ne faut pas rêver. Un couple, il n'y a pas que la piété, la prière. Il n'y a pas que le travail. Il y a aussi les relations sexuelles. Voilà, c'est comme ça. On peut en parler. Si on ne déborde pas de la parole, 1 Corinthiens chapitre 7, on va terminer avec ça parce que vraiment, je suis désolé, j'avais 11 pages de notes. Je pense que la réunion était un peu longue ce matin. Mais on le poursuivra, normalement. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1er, regardez bien, il y a une solution dans cette affaire. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Regardez bien la solution. Ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Donc, c'est très simple. Il est certain que cette affaire du commun accord devrait être valable d'ailleurs dans tous les domaines, pas que dans le domaine sexuel, mais dans tous les domaines du couple. De tout faire les choses d'un commun accord et d'en parler. D'en parler. Dans la vérité. Moi, je suis malheureux, je vous le dis franchement, quand on voit des chrétiens qui divorcent, mais pour des peccadilles, pour rien du tout, parce qu'il n'y a aucune communication. Je me souviens d'une sœur qui avait fait une expérience formidable avec Dieu. Elle s'était mariée avec un garçon qu'elle avait rencontré vite fait ici à l'église. Elle voulait à tout prix se marier. Et un jour, elle tape à mon bureau, elle me dit, monsieur Gau, je suis scandalisée. C'était le jour de la Saint-Valentin. Je suis outrée. Et qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, mon mari, il ne m'a pas offert des fleurs pour la Saint-Valentin. Ah, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Ah bon, d'accord. Eh bien, moi non plus, j'ai pas acheté des fleurs à ma femme. Ah, monsieur Gourme, je croyais que vous étiez un bon pasteur. Mais j'ai dit, mais oui. Parce qu'il faut acheter des fleurs à sa femme. Et pour elle, voyez, bon, vous allez me dire, c'est ridicule, c'est ridicule. Pour elle, c'était important. Vous voyez, je n'aurais pas du tout la même approche avec elle aujourd'hui. Mais je crois quand même que tout ça, ça peut se gérer dans la discussion. C'est sûr que pour des femmes, les fleurs, c'est important. Moi, la mienne, c'est le repassage. Voilà. Donc, si vous saviez comment... Je chante. C'est vrai. Un jour, elle m'a dit, mais moi, les fleurs, je n'en ai pas besoin des fleurs, moi. Moi, je préférerais que tu fasses une heure de repassage par semaine. Et depuis, je fais une heure de repassage. Au début, avec le fer, on n'était pas particulièrement d'un commun accord. Mais c'est venu. Pourquoi je dis ça? C'est le dialogue. Ça vaut la peine quand mes frères et sœurs... On va faire ces études sur le couple, on va le faire d'une manière sérieuse et d'une manière joyeuse. Mais je vous en prie, mes frères et sœurs, regardez, Jésus l'a dit, je termine avec cette pensée qu'on développera parce que l'on n'a pas le temps. Aimez-vous, comment? Comme je vous ai aimé. Parce que je dis ça pour les parents avec les enfants, l'été arrive, moi mes enfants je les aime. Et je peux vous dire qu'on les aime, les enfants. Ils ont tout leur PlayStation, ils ont leur portable, ils ont même la télé dans la chambre. Moi, je ne sais pas si c'est les aimer, les enfants. Je vous le dis, on en reparlera. Aimez-les comme je vous ai aimé. Et on devrait s'interroger, mais est-ce que j'aime beaucoup? Ça ne veut rien dire. Ou est-ce que j'aime comme Jésus? Aimez-les de l'amour dont je vous ai aimé. La source, c'est l'amour de Dieu. Et nous devrions passer du temps dans la prière. pour dire, Seigneur, donne-moi ton amour afin que je sache aimer comme tu aimes. Je peux vous dire que nos réunions seraient bénies si tous les couples développaient ce que nous allons partager pendant les semaines à venir, si Dieu le veut. Prions le Seigneur, mes frères et sœurs. Je vais demander à Michael de préparer les frères. Recueillons-nous, et le peu que nous avons entendu, car le temps nous est compté, de grâce, mes frères. Tenons-en compte. Ce matin, la pensée, c'était, je dois être un homme responsable. Je dois être un mari responsable. Je dois être une épouse responsable. Ne vous culpabilisez pas si vous avez divorcé. Je ne veux pas que quelqu'un se culpabilise. Surtout pas. Vraiment, j'y tiens. Je sais que ceux qui ont divorcé, qui sont restés à l'église, sont des gens qui ont souffert, beaucoup, beaucoup souffert, parce qu'ils ont été victimes de grâce. Et n'allez pas faire un raisonnement à une personne qui a divorcé. Je vous le demande, s'il vous plaît. Ces frères et sœurs, ils ont droit de la miséricorde, de la compassion surtout. Mes frères et sœurs, on va prendre le pain et le vin. Il faut que ça soit une occasion de dire, Seigneur, il y a des solutions. Adam et Ève se sont cachés. Ils ont eu peur. Ça partait vraiment, vraiment mal. Mais Dieu a sacrifié un agneau pour les couvrir. Et pour qu'ils repartent. Le sang de Jésus a coulé pour que nous puissions avoir toujours des solutions. Alléluia. Il ne faut pas qu'on soit dans la culpabilité malsaine. Il faut qu'on soit dans l'intelligence. Je t'instruirai pour ton bien. Nos enfants ont besoin de modèles. Quel modèle êtes-vous pour vos enfants? Quel modèle êtes-vous? Sérieusement, vous devez répondre à cette question. Si c'est moi qui vous la pose, bon, c'est moi. Mais si c'est Dieu, on en reparlera aussi. Quel est le modèle? Est-ce que tu es un modèle pour tes enfants? Oui, c'est ça l'Église. Quel modèle je suis? Lisez le Cantique des Cantiques et vous allez voir, même si c'est un livre spirituel, c'est un livre qui parle de l'amour entre un homme et sa femme. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui nous éclairent sur la façon dont un homme ou une femme doit se comporter envers son conjoint. Notre Père, notre Dieu, nous voulons être responsables, vraiment responsables, dans l'Église, dans la société, dans la famille, dans le couple. Nous voulons être des hommes et des femmes responsables qui accepteront d'être instruits pour notre bien. Donne-nous, Seigneur, cette intelligence, vraiment donne-nous, Seigneur, de recevoir toutes tes instructions, comme David te le demandait, instruis-moi. Instruis-nous, Seigneur. Même si nous avons vieilli, nous te demandons de continuer à nous instruire afin d'être des modèles pour les jeunes couples. Seigneur, merci pour cet agneau que tu as sacrifié pour couvrir Adam et Ève, pour qu'ils ne soient pas nus, pour qu'ils puissent se présenter à nouveau devant toi. Merci pour ton sang qui a coulé et qui nous permet ce matin, malgré toutes les casseroles qu'on se traîne, Seigneur. Merci pour ton sang qui nous permet de nous présenter devant toi. Vraiment, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen.